jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invité est comédien, metteur en scène, auteur, réalisateur et drag queen. Vous le connaissez peut-être à travers Paloma, grande gagnante du tout premier Drag Race en France en 2022. Depuis septembre, Paloma a désormais son spectacle, Paloma au pluriel, dans lequel, paradoxalement, Paloma s'efface, laissant place à d'autres femmes qu'elle, d'autres personnalités, d'autres caractères. Fanny Ardant, Anne Cyprine, Lola Shiva ou encore Marie-Antoinette. Paloma, au pluriel donc, qui s'effeuille de personnage en personnage jusqu'à faire apparaître sur scène notre invité.
Hugo Bardin, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Bienvenue dans les Midis de Culture.
Alors, qui êtes-vous, Hugo Bardin?
Eh bien...
Vous devez trancher en 30 secondes.
En 30 secondes, voilà.
Enfin, 40 minutes.
J'ai l'impression d'être tout et rien, c'est-à-dire que je suis un comédien au départ, je crois que c'est vraiment ce qui me définit le plus.
Ce que j'ai dit en premier, donc je suis bien.
Oui, et ça me va très bien. Et un scénariste peut-être, enfin en tout cas j'ai un truc avec l'écriture et la mise en scène, et j'avais envie avec ce spectacle de mettre ça en avant avant tout, avant le drag. Le drag est un peu un prétexte.
Voilà, si je vous pose la question, c'est parce que j'ai hésité à un moment donné à dire bonjour Paloma, enfin écrire ça pour Nicolas Herbeau, bonjour Paloma. Or Paloma, il faut le dire, c'est un de vos personnages. Ça vous a popularisé, mais vous n'êtes pas Paloma, Hugo Bardin.
Non, je ne suis pas Paloma, heureusement, parce que ça demande quand même beaucoup de travail, c'est un sacerdoce d'être Paloma. Mais je le reconnais que sans Paloma, je ne serais pas actuellement assis dans ce fauteuil en train de parler de mon spectacle. Elle m'a mis en lumière, moi, pendant plus de 10 ans, j'ai travaillé, que ce soit en tant que costumier, comédien, metteur en scène, scénariste. Je travaillais, mais je n'avais pas la plateforme que j'ai aujourd'hui. Et c'est à Paloma que je la dois, ça c'est sûr. Ouais.
C'est tout le paradoxe, quand on invite des comédiens, on les présente toujours eux et on parle après de leur rôle. Est-ce que vous, les choses se font encore de manière inversée? C'est-à-dire, on vous parle d'un rôle au lieu de s'adresser à vous?
Ça va même plus loin que ça, c'est-à-dire que non seulement on me parle d'abord de mon personnage, mais ce qui est normal, d'une certaine manière, les gens me connaissent pour ça, mais de fait, puisque c'est un personnage que les gens ont découvert dans une émission dans laquelle je parle et de mon travail, mais également de qui je suis et de ma sexualité, de fait, on va me parler de mon genre, de ma sexualité, de toutes ces choses-là. Et donc, je sais que je représente quelque chose qui va au-delà de simplement un art. Je représente aussi une communauté et tout ce que ça implique. Et parfois, j'aimerais juste parler de mon travail. Mais c'est important aussi d'occuper l'espace public et de représenter.
Vous en avez marre de Paloma?
Ah non.
Voilà, ça c'est l'autre paradoxe. C'est-à-dire qu'on vous le colle à la peau, vous vous mettez dans sa peau et en même temps, vous n'êtes pas qu'elle. Donc il y a quand même ce flou qu'il faut à la fois maintenir et en même temps démêler sans cesse.
Oui. Bah, j'essaie de faire comme Mylène Farmer, j'essaie de rester mystérieux un petit peu quand même.
On vous voit plus que Mylène Farmer en entendant.
Oui. Mais quand elle a commencé sa carrière, on la voyait beaucoup. Il faut que je joue le jeu à un moment et puis après que je disparaisse.
Dans quelques années, on
voilà,
verra plus.
C'est ça. Non, j'en ai pas marre, loin de là, mais je soigne Hugo autant que je soigne Paloma. Je fais très attention à ce que le créateur derrière la créature aille bien, parce que je sais que si je mise tout sur ce personnage, à un moment, la mécanique va s'enrayer. J'ai besoin de moi d'être aussi satisfait en tant que Hugo et de faire des projets qui sont plus personnels.
Et d'ailleurs, ça sent dans ce spectacle, Paloma au pluriel. On va en écouter tout de suite un extrait, mais on reviendra quand même sur cette idée que dans Paloma au pluriel, il n'y a presque plus Paloma.
Oui.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
J'ai dit bonsoir.
Bonsoir.
Anne-Cyprine de Chantremont à la braise.
Je suis une mouette.
Je te reprends la parole.
Comme quoi le mec s'était embêté dans un trafic. Escroquage, blanchisserie d'argent et j'en passe. Ah mais moi je suis tombé des nudes. Et en plus de ça, qui c'est qui a dû rembourser? C'est Nefertiti. Eh ben je peux vous dire que ça a été la croix et la brassière. Hein. J'y ai passé toutes mes économies, l'argent du mobilhome, de ma rhinoplastie, voyez le désastre. J'ai même... J'ai même failli perdre la garde de ma chienne. Sephora, que j'adore.
Voilà pour un extrait de votre spectacle, Hugo Bardin, Paloma au pluriel, écrit par vous et avec Maximilien Marcé-Husson, mise en scène par vous. On vient d'entendre un petit panaché, on a entendu Viviane Vivier, la directrice de casting, autoritaire, voire tyrannique, Anne Cyprine, la bourgeoise qui trie les affaires de sa belle-mère décédée, Lola Shiva, la jeune femme qui a décidé de se convertir à la zénitude et à la méditation, et Nefertiti, ça c'est un peu votre personnage chouchou, on peut le dire, Hugo Bardin.
C'est celle que j'aime le plus et la seule qui n'est foncièrement pas méchante, parce qu'elles sont toutes quand même très en colère et elles sont toutes un petit peu problématiques, je dois dire. Je cherche pas forcément à faire un spectacle qui est politiquement correct. En tout cas, j'utilise les personnages pour me moquer justement de tous toutes les dérives de notre société. Nefertiti, c'est un petit peu je la vois un peu comme un ange, quoi. C'est-à-dire qu'elle est authentique, elle dit tout ce qu'elle pense, elle a aucune méchanceté, et finalement, c'est la plus populaire, c'est celle dont on peut se moquer le plus facilement, et pourtant, c'est celle qui a les meilleures intentions et qui est la plus honnête.
Mais c'est une figure féminine qu'on peut étiqueter sous le terme de cagole.
Oui. Mais moi, je vais même assez loin par rapport à ça. J'estime que la cagole, c'est un peu la féministe qui s'ignore. Mm. C'est-à-dire qu'elle dit tout ce qu'elle pense, elle se laisse pas marcher sur les pieds, elle est ultra féminine et en même temps, elle a pas peur de se castagner avec les mecs sur le Vieux-Port. Et moi, j'ai une passion pour les cagoles, je les trouve très touchantes et je trouve que c'est assez gracieux, en fait, une cagole.
Comment vous avez choisi, Hugo Bardin, cette galerie de personnages féminins? Pourquoi je l'ai pas dit, donc mais il y a, on l'a pas entendu surtout dans cet extrait, mais il y a Fanny Ardant aussi. C'est un personnage réel. Anne Cyprine, elle n'existe pas, mais on voit à qui elle pourrait se rattacher, la bourgeoise de droite qui maltraite Maria. Voilà, exactement. Donc comment ça s'est fait? Comment vous vous êtes dit, je vais construire telle ou telle personne? Il me faut tel caractère dans mon spectacle.
Il y en a certains qui se sont imposés très vite parce que je les joue depuis longtemps. Anne Cyprine, Lola Shiva et Nefertiti, je les ai créés bien avant Drag Race parce que je les faisais sur YouTube. J'avais une chaîne qui s'appelle Gourmande où je faisais la cuisine en personnage. Et je les avais créés comme ça parce que je voulais trois archétypes très différents. Et en fait, c'est des personnages que j'ai connus. Anne Cyprine, je n'ai connu que des Anne Cyprine toute mon enfance.
C'est pas votre mère?
Non, pas du tout. Mais c'est pas quelqu'un de ma famille spécifiquement, mais moi je viens de Clermont-Ferrand, j'avais beaucoup de familles à Chamalières et c'est un peu le Neuilly clermontois et donc j'étais entouré de gamins au collège dont les mères étaient des Anne Cyprine, des Anne Charlotte, des Sixtine et des Pénélope qui étaient des bourgeoises comme ça cathos qui ne doutaient de rien et qui étaient très condescendantes avec leurs femmes de ménage, qui avaient l'impression d'être extrêmement gentilles parce qu'elles donnaient leurs vieilles fringues au Secours Pop, mais qui avaient des propos atroces. Donc elle me fascine, moi la bourgeoise me fascine, sa capacité à ne douter de rien et à ne jamais remettre en cause sa propre existence, ça me fascine.
Donc la cagole, la bourgeoise, et vous avez parlé de Lola Shiva. C'est le troisième personnage emblématique.
Oui.
Lola Shiva, c'est pas la bourgeoise, c'est pas la cagole.
Non.
Donc c'est quoi? C'est une jeune femme comme moi, en fait, d'une certaine manière.
C'est une parisienne.
Voilà.
C'est une parisienne qui a fait un burn-out et qui est partie.
Pas encore moi alors.
Non. Elle a fait un petit burn-out. Elle est allée 2 semaines dans un ashram et puis elle s'est convertie au véganisme et elle fait elle fait des cercles de parole pour retrouver son féminin sacré en Ardèche. Et pour moi, c'est le pire personnage du spectacle. C'est-à-dire que toutes les autres, elles sont assez méchantes, mais elles s'en rendent pas forcément compte, alors qu'elle, elle sait très bien ce qu'elle fait. Il y a un côté un peu gourou. En fait, moi, ce qui m'intéresse avec ce personnage-là, c'est que j'ai envie de faire un spectacle qui soit quand même assez féministe. Je trouve toujours que quand on fait du drag, on marche un peu sur des œufs par rapport à ça. C'est-à-dire que on joue avec des codes qui sont dans notre société associés au féminin.
Il y a des clichés, du coup.
Il y a des clichés, bien sûr. Donc, je fais très attention de ne pas dire n'importe quoi sur les femmes et de respecter des principes féministes qui, moi, sont importants pour moi. Donc j'essaie d'avoir des personnages qui sont soit en colère contre le patriarcat, soit justement de montrer, et c'est ce que je fais avec Lola Shiva, un personnage qui se veut très féministe et qui en fait n'est pas sorore du tout et qui est en compétition avec les autres femmes. Et de me moquer de ça justement, de cette fausse sororité qui parfois peut être un prétexte pour faire du business.
Mais ça, c'est vraiment une ligne de crête, parce que vous l'avez dit, vous vouliez faire un spectacle féministe à partir de personnages féminins, mais dès lors qu'on fait une galerie de personnages, on est dans la caricature.
Bien sûr.
Donc, comment on fait pour tenir ça ? C'est-à-dire à la fois dire, pas porte-parole non plus des féministes,
non,
mais voilà, mais en tout cas dire je fais un spectacle féministe, mais en même temps quand même pointer tous les travers de ces femmes-là auxquelles un ensemble de femmes dans lesquelles pourraient se reconnaître en tout cas.
Je pense que le premier écueil, ça serait de reproduire une forme d'humour un peu masculin qui est déjà très exploitée dans l'humour et qui a été très exploitée par des comiques qui se sont travestis sur scène et qui n'étaient déjà pas forcément queer, donc qui n'avaient pas un point de vue
Vous pensez à
qui est le mien. Bah, je pense à Deconé Garcia, par exemple, ou aux Inconnus qui l'ont beaucoup fait et qui étaient dans une caricature qui était drôle, mais qui n'était pas... je pense qu'il n'y avait pas cette volonté de forcément d'être subtil. Moi, mon modèle, si je dois en citer un, évidemment, il y a Eli Kaku, parce que je trouve que c'est un des maîtres de l'humour. Et dans ce registre-là, je trouve qu'il a pris beaucoup de risques à une époque où on n'était pas très ouvert d'esprit. Et je pense à Alex Lutz, bien sûr, qui a amené avec Catherine et Liliane quelque chose de beaucoup plus subtil, où il y a de l'humour, mais il y a un fond dramatique. C'est-à-dire que les personnages sont drôles, mais on voit derrière les fêlures, on voit qu'elles n'ont pas eu des vies marrantes, qu'elles ont des frustrations, qu'elles sont malheureuses parce qu'elles ont des maris qui s'intéressent pas à elles, ce genre de choses. Et dans mes personnages, j'ai essayé à chaque fois, oui, de taper un petit peu sur mon personnage. Anne Cyprine, je suis quand même très sévère avec elle. Mais en même temps, on voit bien que c'est quelqu'un qui s'ennuie, son mari s'intéresse pas à elle, elle est complètement dévouée à une espèce de cause qu'elle ne comprend pas elle-même, qui est de perpétuer la tradition et d'être soumise au patriarcat, et elle-même, elle comprend pas le mot patriarcat. Donc, en fait, je montre quand même que c'est quelqu'un d'assez seul, et que sa meilleure amie, c'est sa femme de ménage, quoi. J'essaie pour chaque personnage d'aller chercher un endroit de fragilité ou un endroit de contradiction. Voilà, c'est ça. Où tout d'un coup, on se dit « Ah, finalement, elle n'est pas si cliché que ça. » J'ai un personnage de guide de musée, par exemple, qui s'appelle Delphine.
Qui est génial aussi.
Qui est le personnage qui me ressemble le plus, je pense. Et au départ, elle compare les tableaux à des choses qu'elle a pu vivre et elle s'attaque à la jeune fille à la perle en disant que c'est une pétasse, c'est une croqueuse d'homme et qu'elle ressemble beaucoup trop à la nana qui lui a piqué son mari. Et je fais ça pour que le spectateur se dise « Oh non, c'est encore une femme en colère qui va taper sur les autres femmes. » Et en fait, très vite, elle change de discours et on se rend compte qu'en fait, elle est juste en colère contre une femme en particulier. Mais que toutes les autres femmes, elle va les défendre. Donc j'essaie à chaque fois d'emmener dans des chemins de traverse comme ça qui permettent de rendre le personnage plus subtil et plus humain. Voilà.
Alors moi, quand j'ai regardé votre spectacle, Hugo Bardin, je ne savais pas à quoi m'attendre, parce que je vous connaissais avec le personnage de Paloma, donc je me demandais si ça allait être des tableaux, justement, de personnages féminins, et on vient de l'entendre, en fait, on l'a entendu à travers vos paroles et à travers cet extrait, c'est qu'en fait, c'est un spectacle d'humour, vous pourriez dire, que vous avez vraiment monté comme un spectacle d'humour avec des sketchs ?
Non. Non, parce que je connais mon écriture et je n'ai pas voulu, comme par exemple quand j'étais sur Quotidien où on me demandait de faire une blague à chaque
phrase. Donc l'émission de Yann Barthès sur
Quotidien. Voilà, j'ai été chroniqueur pendant une demi-saison sur Quotidien et l'exercice était de faire des sketchs et vraiment de faire rire à chaque phrase. Et j'ai pas trouvé cet exercice très simple parce que c'est pas mon écriture. Moi, j'aime faire des portraits et un portrait, ça demande du temps, ça demande des moments moins drôles et ça demande parfois d'aller dans des choses un peu trash, voire même un peu sombres. Donc, dès que j'ai commencé à écrire, je me suis pas imposé une vanne à chaque phrase. Je me suis dit, écris. Si c'est drôle, tant mieux. Si c'est touchant, c'est encore mieux. Donc, j'ai essayé d'écrire des portraits. Et quelle a été ma surprise à la première de découvrir que ça faisait rire tout le temps. Mais c'était absolument pas ce que je recherchais.
Vous définissez pas comme un humoriste ?
Non, De fait, maintenant, je commence à me dire que peut-être, mais je...
Quotidien, c'était peut-être pas forcément trompé en vous demandant d'écrire des chroniques humoristiques.
Voilà, exactement. Mais je pensais pas que mon humour, qui est un humour assez noir quand même, et voire même assez provocateur, allait autant fonctionner. Donc, je suis le premier surpris. Mais la première chose que je me suis imposée, c'est de respecter mes personnages, quitte à ne pas faire rire à chaque phrase. Voilà.
Mais ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que vous n'aviez pas en tête ni de faire un spectacle de drague, ni un spectacle humoristique, mais en fait de faire un spectacle sur quoi ? Sur des caractères, un peu comme La Bruyère ? Non, je dis pas que vous vous êtes dit, suis le nouveau La Bruyère de 2024.
En tout cas, je l'ai plus envisagé comme du théâtre, en fait. Je me suis dit, c'est un seul en scène. Bon, dans la tête des gens, ça sera un one drag show. Mais je veux pas qu'on pense que c'est du stand-up. Je vais pas raconter ma vie. Et puis moi, je viens du théâtre, en fait. Je n'ai fait que du théâtre toute ma vie. Donc
c'est là où on retrouve le théâtre.
Voilà. Je l'ai plus envisagé comme un... Oui, pas comme des brèves de comptoir, mais comme un spectacle, comme avec des pastilles à la Hanok Levin ou à la, des auteurs comme ça qui font des pastilles avec des personnages. Je l'ai plus envisagé comme ça.
Ce qu'on avait aussi avant dans les spectacles d'humour avec des sketchs, c'est ce qu'on a de moins en moins dans l'humour. On a beaucoup du stand-up, comme vous avez dit, c'est-à-dire des gens qui vont se raconter dans un seul en scène avec des moments qui vont être plus ou moins drôles, avec vraiment des gens qui se livrent sur scène sur leurs problématiques. Vous, il n'y a pas ça, mais il y a quand même effectivement ce fond entre des sketchs, des personnages en tout cas très assumés, et un côté sketch, et en même temps avec des moments assez dramatiques. On est assez touché, en fait.
Je pense que je ne serais pas capable de parler en mon nom et de raconter ma vie.
Ça vous intéresse pas ?
Je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Moi, en tout cas, ça m'intéresse pas.
Parce que je pense que les trois quarts des gens aujourd'hui se disent qu'ils ont un truc à dire et dire qu'au fond, même dans ce qu'ils n'ont pas d'intéressant, ils sont intéressants.
Mais c'est très bien le stand-up. Moi, il y a plein d'artistes que j'adore. J'adore Tristan Lopin, Mao Drama. Enfin, il y a plein de gens que je trouve formidables et qui ont quelque chose à dire. Et aussi parce que je pense qu'il y a une parole un peu de journaliste dans le stand-up parfois. Ça peut être intéressant quand il y a cette analyse politique ou qu'il y a quelque chose à dire sur notre société en parlant d'aujourd'hui. Moi, je suis plus à l'aise dans une forme de nostalgie où je m'inspire de personnages autour desquels j'ai pu grandir et qui m'ont marqué enfant. Donc, de fait, j'ai envie de les faire parler parce qu'il y a une espèce de mimétisme. Et puis, je pars pas du principe que parce que je fais parler d'autres personnages, je ne peux pas dire des choses sur moi. Et de fait, dans le spectacle, en fait, la plupart des personnages, je leur fais dire des choses qui sont très personnelles. Mais de la même manière que Muriel Robin ou Valérie Lemercier, qui sont un petit peu des modèles pour moi, je pense qu'on dit beaucoup de choses sur elles-mêmes à travers leurs personnages, que plein d'artistes qui font du stand-up et qui nous font croire qu'ils nous racontent leur quotidien, alors que parfois ils inventent complètement.
Oui, il y a presque le processus inverse.
Oui, c'est ça, exactement. Moi, Muriel Robin, quand elle nous fait le sketch sur le noir ou sur le fils homosexuel, à une époque où on fait pas du tout d'humour là-dessus et
on en fait encore moins,
encore très peu.
Moi aujourd'hui, ouais.
Je réécoute ce sketch aujourd'hui, je me dis mais quelle modernité en fait, elle parle vraiment d'une population qui n'est pas du tout prête à accepter la différence et elle fait rire tout le monde avec ça et je trouve ça extrêmement fort en fait. Et on est obligé de se reconnaître dans le personnage, on est obligé de se dire ah mais en fait, ce personnage, c'est ma tante, je la connais. Et je trouve que c'est très fort, les personnages, parce qu'on, Anne Cyprine, on a tous une Anne Cyprine dans notre vie, on a tous une Lola Shiva, on a tous une Viviane, on a tous quelqu'un qui ressemble un peu à ce personnage, et ça nous ramène à notre quotidien. Enfin, moi, je crois.
12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
Vous, Milady.
Vous, Rochefort, mon fidèle Rochefort.
Qu'avez-vous fait depuis hier ?
Je n'ai pas perdu mon teint.
Je vous fais confiance, mais encore ?
J'ai rencontré quelqu'un ici.
Quelqu'un ?
Devinez.
Non, c'est trop difficile, nous avons tellement d'ennemis. Un homme ?
Une femme. Vous rappelez-vous cette jeune femme que la reine a tirée de prison ?
Oui.
La femme de ce stupide marchand de rubans.
Oui.
Dont l'infâme mousquetaire Gascon était tombé amoureux.
Oui.
Et que la jalousie de son ridicule mari avait placé entre nos mains.
Oui.
La reine l'avait soigneusement tenue cachée depuis 10 mois.
Oui.
Car c'est une perfide créature de la reine.
Oui.
Madame Bonacieux, enfin, dont le cardinal ignorait la retraite.
Oui. Mais elle... Vous connaît-elle ?
Non, 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 non. Je suis sa meilleure amie.
Oui, 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 oui.
Ne riez pas, Rochefort. C'est sérieux.
Oui.
Les Trois Mousquetaires dans cette adaptation radiophonique de Jean Chouquet en 1953, avec dans le rôle de Rochefort, Louis de Funès, et dans celui de Milady, Christine Lénier.
Qu'est-ce que vous avez, Hugo Bardin, avec Milady et les Trois Mousquetaires ?
C'est vraiment mon roman d'enfant. Je le lisais inlassablement.
Mais d'enfant, quel âge ?
Bon, je sais pas, 8, 9, 10 ans.
Ah ouais, tôt quand même.
Mais ça me fait rire parce que tout à l'heure,
la
journaliste
journal,
parlait de ça.
La baisse de lecture chez les jeunes, à cause des écrans notamment.
Moi, j'ai grandi dans une famille très intello, où il n'y avait pas de télé. Bon, il y avait quand même Télérama parce que...
Faut se tenir au courant.
Faut se tenir au courant, mais... Voilà, mais on nous avait foutu les Jules Verne, les Alexandre Dumas dans les pattes, et enfin moi je n'ai fait que lire toute mon enfance, et Alexandre Dumas c'était vraiment tout pour moi, et Milady, j'ai une espèce de fascination depuis tout petit avec ce personnage,
qui est une méchante.
Qui est une méchante. Oui.
Pour présenter un peu quand même ce personnage de Milady, pour ceux qui ne l'auraient plus en tête, c'est que Milady, c'est quand même l'ennemi des mousquetaires. C'est-à-dire qu'à travers elle se jouent quand même des complots, des règlements, et elle a des comptes à régler avec eux.
C'est l'ennemi des mousquetaires, ça n'en fait pas pour autant une méchante. En tout cas, moi, c'est la lecture que j'en fais aujourd'hui.
Très bien, défendez-vous.
Voilà. Je défends Milady parce que, effectivement, quand on lit Les Trois Mousquetaires, tout est fait pour qu'on soit du côté des mousquetaires et qu'on ait envie de détester Milady. Mais quand on relit un petit peu l'œuvre, on se rend compte qu'elle a été violée, battue, assassinée. Enfin, son mari a essayé de l'assassiner. Enfin, c'est quand même un peu une icône féministe qui est victime de violences conjugales, victime de beaucoup, beaucoup de choses de la part du patriarcat. Et en fait, elle a juste envie de se venger. Donc, est-ce que ça fait d'elle une méchante? Je sais pas.
C'est un personnage antagoniste.
C'est un personnage antagoniste, mais je trouve qu'elle est très défendable. En tout cas, moi, j'attends une version cinématographique qui n'en fera pas une espèce de diablesse avec des pouvoirs magiques. Quoi.
Et la dernière, qui est de Martin Bourboulon, par exemple, avec... j'ai oublié son nom, évidemment.
Avec Eva Green.
Avec Eva Green, voilà. Là, on a une Milady, notamment dans le deuxième volet, qui est beaucoup plus trouble, beaucoup plus...
J'ai pas vu le deuxième volet.
Ah ben voilà.
J'ai vu le premier... J'y suis allé à reculons parce que je me suis dit, mon Dieu, ça va être terrible. Et j'ai été agréablement surpris. Mais malheureusement, pas par Milady, que je trouve encore très folklorique, quoi.
Bah, regardez le deuxième. Okay. C'est vraiment consacré entièrement à elle, ouais. Alors, si je vous pose la question aussi d'Alexandre Dumas, c'est que vous avez aussi monté un spectacle d'Alexandre Dumas, La Reine Margot. Vous avez été primé. C'était en 2017. Qu'est-ce qui vous plaît autant? En fait, dans ce qui est dit dans Alexandre Dumas, il y a le côté aventureux, il y a le côté passion humaine. En fait, qu'est-ce qui vous plaît ? Qu'est-ce qui vous plaît à mettre en scène là-dedans ?
En fait, moi, ce que j'aime, au-delà du côté feuilletonnant de Dumas, parce que c'est un peu l'inventeur de la série, hein, ouais. Dumas, il a inventé le concept du feuilleton dans le journal, c'est que c'est à la fois une œuvre exigeante et qui aujourd'hui est tombée un petit peu dans le répertoire de qualité, on va dire. Et en même temps, c'est des œuvres très populaires. Et moi, c'est ce que j'ai toujours aimé. J'ai jamais été très à l'aise dans le théâtre privé, boulevard populiste. Et j'ai jamais été très à l'aise non plus avec un certain théâtre élitiste qui s'adresse à une tranche de la population. J'ai toujours voulu faire des choses qui rassemblent. Un peu entre les deux. Et je trouve que Dumas, c'est un auteur qui permet ça, parce que c'est à la fois il y a des grandes choses qui se jouent, et en même temps, c'est des fresques très divertissantes. Il y a une dimension populaire dans son travail, dans son œuvre.
Est-ce que c'est difficile d'occuper cette place intermédiaire dont vous parlez ? C'est-à-dire entre un théâtre, oui. Surtout que vous avez commencé comme comédien, vous avez fait le cours Florent, vous avez eu un bac théâtre. Donc très vite, vous avez su que vous vouliez faire de la scène, en fait, que vous vouliez jouer. Pourquoi c'est aussi compliqué de devoir faire un choix absolument entre quelque chose d'élitiste, snob, et quelque chose de populaire ?
Mais parce que les institutions sont comme ça. Moi, quand j'ai fait Florent, il y avait une scission évidente entre...
Dès le début.
Ah oui, mais même quand j'étais au lycée. Je veux dire, moi, je montais des spectacles en dehors de mes cours de théâtre. Et je montais du Sacha Guitry et des trucs comme ça. Et
vous le situez où, d'ailleurs, Sacha Guitry? Parce qu'il y a un côté très snob dans la langue,
oui,
dans le phrasé. Et en même temps, il y a quelque chose de drôle et poète-poète aussi.
Oui, bah, disons que si tous les boulevards étaient écrits comme du Sacha Guitry, il n'y aurait pas ce problème, je pense. Et encore, j'ai beaucoup de choses à dire sur Guitry maintenant. Mais déjà, à l'époque, j'entendais mes profs me dire « Non, mais monte du... » Mon du Jean-Luc Lagarce, j'étais oui, j'adore Jean-Luc Lagarce, mais en fait j'aime aussi l'humour. J'ai envie de... enfin l'humour n'est pas c'est bien l'humour, enfin c'est pas un gros mot. Et même à Florent, j'entendais ça, c'est-à-dire que d'un côté il y avait les élèves qui voulaient faire le conservatoire, qui voulaient faire les grandes écoles et qui avaient un avis très snob sur le théâtre et sur ce qu'il fallait faire au théâtre. Et moi, j'avais pas non plus envie de faire des spectacles à la Michaudière. Pardon pour la Michaudière. Et c'est vrai que j'ai entendu des directeurs de théâtre me dire « Ah non, mais nous, on fait du théâtre, vous faites du spectacle. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait?
Ah oui, comment vous l'avez compris?
Je sais pas comment me placer, c'est-à-dire que il y a un public aussi qui a pas envie de voir des trucs vulgaires et qui a pas non plus envie d'aller voir...
Du Brecht.
Oui, et encore, on peut faire du Brecht rigolo, ou même divertissant. Et c'est pareil dans le cinéma, il y a une scission entre le film d'auteur et la comédie française bien grasse. Et on voit tous les films du milieu, les Jaoui Bakri, les René, tout ça qui disparaît. Et je me dis, c'est dommage parce qu'il y a un vrai public pour ça. Voilà, j'ai l'impression d'être un vieux con nostalgique quand je dis ça. Mais il y a aussi quelque chose qui pourrait fédérer, qui pourrait être fait pour fédérer.
Et de ce point de vue-là, qu'est-ce que c'est pour vous un bon personnage? Parce que vous êtes un créateur de personnages. Là, on vient de parler de Milady. C'est un personnage complexe déjà, parce qu'on peut le voir comme une méchante, comme un personnage antagoniste, comme quelqu'un qui a été vu comme ça, qui peut être travaillé autrement, comme un personnage féministe. Pour vous, c'est quoi un bon personnage, Hugo Bardin?
C'est un personnage qui n'est pas écrit pour être politiquement correct. C'est un personnage qui n'est pas lissé pour faire plaisir au public. C'est un personnage qui a des défauts, qui a des contradictions, qui a des subtilités, qui a du relief. Ouais, je dirais ça.
Vous avez dit d'ailleurs tout à l'heure à propos de vos personnages qu'ils avaient un fond problématique.
Bien sûr. Ah bah Viviane, par exemple,
la directrice de casting.
La directrice de casting, qui est à chaque fois, qui fait l'unanimité quand les gens m'en parlent parce qu'ils me disent c'est la plus drôle. Je dis oui, mais c'est celle qui dit les pires horreurs.
Oui.
Elle appartient à cette génération de femmes qui, dans les années 80, a dû s'imposer pour évoluer dans un milieu masculin. Et donc elle a chopé tous les codes de masculinité toxique. Donc elle est atroce avec les jeunes comédiens. Elle est sexiste. Elle dit des trucs qu'on peut plus dire en 2024 et elle demande à un moment s'il y a des handicapés dans la salle. Enfin, elle dit des trucs qui sont vraiment atroces, quoi. Mais
elle fait des blagues sur Gaza d'ailleurs aussi.
Non, ça c'est Delphine, c'est la.
Ah, c'est Delphine, c'est la
guide de musée qui écrit des romans érotiques et qui écrit des romans érotiques à Gaza, ouais, qui se passent à Gaza. Oui, mais moi j'aime bien l'humour noir. J'aime bien quand ça fait un petit peu mal. Et je pars du principe qu'on a beaucoup ri des étrangers, on a beaucoup ri des gros, on a beaucoup ri des homosexuels, on a beaucoup ri des femmes. Il y a aussi beaucoup de sujets sur lesquels on peut rire, qui concernent tout le monde et qui peuvent être aussi un endroit où on désamorce quelque chose.
Par exemple, autre que ces sujets-là, parce que ça, quand vous dites, c'est des personnages qui sont pas politiquement corrects, mais en même temps, parfois, si on veut faire rire aujourd'hui, on doit aussi faire attention à ne pas blesser. Par exemple. Donc là, comment on fait pour tenir cette injonction à faire grincer, à ne pas être politiquement correct et en même temps à occuper aussi une place qui ne soit pas celle de blesser, d'offenser?
J'ai pas la réponse parce que je ne sais pas si j'y arrive. Il y a des soirs où je me suis dit, cette blague, en fait, est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce qu'elle est pas là juste un peu pour la forme? Est-ce que vraiment elle apporte quelque chose? Est-ce qu'elle me donne matière à réflexion? Et j'ai enlevé des choses. Après, moi, ça me dérange pas d'assumer parfois des blagues qui font un peu sursauter parce que justement, elles provoquent quelque chose chez le spectateur. Après, blesser des gens, ça m'intéresse pas, mais Je fais très attention à justement ne pas faire d'humour sur des sujets qui ont déjà été épuisés et qui, en plus, venant d'une drag queen, d'une personne queer qui est censée avoir un discours...
Bah voilà, c'est ça, vous avez un rôle à tenir d'une certaine manière.
Sur ces sujets, je ne m'aventure pas sur ces sujets-là parce que ça n'est pas mon rôle et que justement, je veux montrer qu'on peut faire de l'humour sur d'autres choses. Mais taper sur le patriarcat, sur les mecs, mais à fond. Et s'ils sont vexés à la fin du spectacle, bon, c'est pas très grave.
Bonsoir, non. Merci, merci, mais non, non. Non, parce qu'en fait, je vais arrêter le métier. Si, si, non, vous savez pas de quoi vous parlez. Vous, vous avez des métiers normaux, vous êtes banquier ou je sais pas. Non, moi, j'arrête le métier parce que c'est trop difficile maintenant. Parce que maintenant, les gens qui montent sur scène, ils ont tous un truc à défendre. Une identité, une cause, quelque chose. Et moi, j'ai rien. Moi, j'ai rien. J'ai pas de spécificité. Moi, je suis pas homo, je suis pas trans, je suis pas végane, je suis pas polyamoureuse, je suis pas obèse, je suis pas noire, je suis même pas juive, je suis rien, je suis rien. Moi, je suis une femme blanche, hétérosexuelle, de 41 ans, consommatrice anxiolytique. C'est pas une identité, c'est un cercueil, d'accord? Donc, non, c'est vraiment, c'est très compliqué. Et encore, je dis, je suis une femme, même pas tout le temps. On n'est pas une femme tout le temps, d'ailleurs, quand on est une femme, c'est vrai. Moi, le matin, quand je prends mon café, je ne suis pas une femme, par exemple. Je ne suis pas une femme jusqu'à 11h45, à peu près, je ne suis pas une femme. On ne se connaît pas, mais moi, le matin, voilà, je suis beaucoup plus proche d'un Annie Girardot, quelque chose comme ça. Mais je ne suis pas une femme le matin. On n'est pas une femme tout le temps quand on est une femme, même pas.
Blanche Gardin, le 24 avril 2019, lors du festival Montreux Comédie. C'est en Suisse, bien sûr.
Alors, est-ce que vous avez une identité à défendre, Hugo Bardin? Vous êtes embêté par cet extrait, oui ou non?
Embêté, non.
Vous avez vu rire et en même temps faire...
Non, parce que enfin, j'aime vraiment beaucoup Blanche Gardin. Je pense que c'est une des personnes qui m'a... Comment dire? Qui m'a donné la permission d'écrire ce spectacle. On se connaît pas personnellement.
Oui, elle vous a pas dit, vas-y.
Non, non, mais je me suis dit... Ah ouais, elle a ouvert une voie. En tout cas, elle a ouvert un type d'humour noir qui, moi, me parle.
Parce qu'elle dit des choses que d'autres ne disaient pas.
Oui, et puis parce qu'elle ose, et je pense qu'elle a des convictions qui sont très très louables, mais elle ose, comment dire, je pense qu'elle a pas peur de se mettre en danger dans le sens où beaucoup de gens peuvent sortir de son spectacle et se dire c'est une vieille conne réac, alors que je pense que ce n'est pas le cas, mais elle prend le risque de passer parfois pour ce type.
Elle joue elle-même ce rôle-là.
Elle joue ce rôle-là, et c'est très dangereux, et je pense que ça doit pas être facile tous les jours d'assumer ça. Moi, je pense que j'oserais pas aller jusque-là parce que, justement, je suis une personne queer, que j'ai aussi un rôle à tenir pour tout un tas de personnes qui ne sont pas blanches, qui ne sont pas des hommes cis comme je peux l'être, qui ne sont pas des personnes privilégiées comme moi je peux l'être.
Qui n'ont pas la médiatisation, en fait.
Que j'ai et qui sont de fait beaucoup plus... qui ont des positions beaucoup plus précaires et beaucoup plus instables. J'ai conscience de mon privilège. Je fais aussi attention à ce que je dis parce que j'ai conscience de ce privilège. Mais oui, c'est ça. En tout cas, je pense que mon identité, je ne sais pas laquelle elle est, mais en tout cas, ce que je défends, c'est de pouvoir faire de l'humour en étant queer et de ne pas faire forcément de l'humour que sur ça. En fait, mon spectacle, je ne parle quasiment pas d'homosexualité. J'ai deux personnages qui sont lesbiennes, bi, c'est évoqué à un moment, je parle de Marie-Antoinette et de Delphine, la guide de musée, mais j'essaie plutôt de banaliser l'identité lesbienne dans l'humour sans forcément que ce soit le sujet de mon sketch. Voilà. C'est plutôt ça mon rôle, j'ai envie d'être présent, d'occuper l'espace sans forcément faire de l'humour là-dessus.
Est-ce que pour vous, en ayant gagné le Drag Race, c'est difficile à articuler comme positionnement? C'est-à-dire, vous dites de vous-même, je n'ai pas envie de dire certaines choses et ça tient à vous. Mais est-ce qu'on vous fait jouer aussi un rôle? On attend de vous que vous disiez des choses, que vous vous engagiez au nom d'une communauté, et ça vous pèse? Est-ce que vous avez envie de le faire ou pas?
En fait, j'ai l'impression que personne n'attend rien de moi. C'est un peu moi qui me suis mis tout seul cette responsabilité. Mais en même temps, j'observe que quand je ne suis pas au rendez-vous et que je ne dis pas les bonnes choses...
On ne me rate pas.
Donc je fais très attention et je fais attention surtout de ne pas parler à la place de personnes concernées. Parler de transidentité, parler de racisme dans le milieu queer, c'est des sujets qui sont importants, mais que je ne maîtrise pas forcément. Mmh. Donc je fais attention d'alerter sans forcément prendre la parole de quelqu'un d'autre. De la même manière que quand on me propose de venir faire une table ronde sur le féminisme, je dis ben non, je vais prendre la place d'une femme, ça m'intéresse pas en fait. Je vais pas invisibiliser une personne affable qui va pouvoir parler du sujet. Enfin voilà. Donc je fais très attention de parler de choses que je maîtrise déjà. Et à côté de ça, je fais aussi attention d'avoir la parole, parce que souvent quand on fait venir des drag queens dans les médias, c'est juste pour faire la potiche. Pour faire.
On dirait qu'il y a une drag queen, c'est
oui,
bon.
On est là, on est là pour faire joli, on fait un petit lip sync, on n'a pas de micro, on nous donne. Enfin, moi, combien de fois ça m'est arrivé après Drag Race qu'on me dise ah ben on reçoit la reine de Drag Race France, et en fait j'ai même pas de micro pour parler. Je dis bah non, enfin excusez-moi, mais.
Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Vous demandez un micro?
Ah oui, ou je le prends. C'est hors de question que je vienne juste pour faire joli. Enfin, on n'en est plus dans les années 80 au bain-douche, quoi, avec Ardisson. Je vais pas juste être derrière en body string pour faire joli. J'ai quelque chose à dire, et en plus de ça je suis un comédien et je crois que je suis un peu drôle et un peu pertinent, donc
oui,
donnez-moi
oui.
Un micro que j'améliore
le niveau que j'élève le niveau du débat ou le rendre plus drôle. Et c'est quoi la suite pour vous, Hugo Bardin, après Paloma au pluriel?
Un autre spectacle qui est en création actuellement, mais dans lequel je suis uniquement comédien, mais je peux pas trop en parler, mais très bientôt. Je vais faire une bande dessinée. Enfin, je suis actuellement en création d'une bande dessinée autour de mon spectacle. Justement, c'est l'adaptation de la BD qui sortira cet automne, et j'écris une série. Donc.
Donc le métier d'auteur, de scénariste et de comédien.
Comédien, réalisateur, voilà, j'essaie de tout combiner et de me faire plaisir et en même temps de ne pas abandonner Paloma qui quand même paie les factures.
Merci beaucoup, Hugo Bardin. On pourra aussi vous voir sur scène donc dans Paloma au pluriel demain, le mercredi 10 et jeudi 11 avril, aux Folies Bergères. Puis vous partez en tournée Clermont-Ferrand chez vous, donc du coup.
À l'Opéra.
Oh, Tours, Montpellier, Bordeaux, beaucoup d'autres dates que l'on mettra sur le site de France Culture.
Et un peu comme dans votre spectacle, on va terminer en chanson. On en a choisi deux, une de Mylène Farmer, une autre d'Amanda Lear. Laquelle souhaitez-vous écouter?
Ouais. Je ne sais pas lesquels c'est en plus.
Non,
non.
C'est le jeu.
Allez, je vais donner des royalties à Amanda.
Si tu cherches la bagarre, juste à la bonne place. Si tu cherches la bagarre, regarde-moi bien en face. Et je n'aime pas beaucoup qu'on provoque. Que ça vous plaise ou non, moi je m'en moque. Je suis bagarreuse. Je dirais même que j'aime cogner. Je suis une casseuse. Alors les gars, je vous soigne.
Voilà des royalties pour Amanda Lear. On écoute La Bagarre sur France Culture. Encore merci à vous, Hugo Bardin. Et un grand merci à l'équipe des Midi de Culture qui sont préparées par Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez, Apolline Limosino et Manon Delasselle. À la réalisation, Nicolas Berger. Prise de son, Sébastien Royer. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Merci Nicolas et à demain.
À demain.